Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Marie Bizot, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Rafik Smati, chef d'entreprise et qui anime le parti Objectif France. Cet auditeur m'avait déjà écrit « Libre et décarboné ». Est-ce qu'il ne serait pas possible d'être libre de son choix de retraite en fonction de son âge, de ses revenus, de son souhait de travailler ou non et pas forcément à plein temps jusqu'à 65 ans? C'était un peu l'esprit de départ de la retraite à point.
Qui était assez ambitieuse, qui était une réforme structurelle, qui n'était pas une réforme budgétaire, qui a été complètement balayée. Hein.
À la fin, on n'y comprenait plus rien. Moi,
C'est compliqué.
C'est l'un des seuls sujets d'expertise et d'analyse économique où j'ai fini par reconnaître que j'arrivais plus à retrouver mes petits dans tout ce qu'on nous avait dit, pas dit.
L'assurance... Je pense que, juste pour là-dessus, il y a eu, à mon avis, peut-être aussi une erreur dans la communication. C'est-à-dire que au début, ça devait être. Mais au début, ça devait être une réforme assez ambitieuse du passage à un régime universel par points, etc., qui était un peu différent. Et c'est rajouté une réforme budgétaire derrière, par rapport à justement un nouveau rapport du corps qui montrait qu'il y avait des déficits. Donc je pense que les gens ont assez vu qu'il pouvait y avoir des pertes en ligne justement dans cette réforme-là, qui n'était pas juste une réforme de structure, mais qui était aussi une réforme financière.
Oui, la réforme systémique était un peu redevenue paramétrique, ça faisait beaucoup en une.
Ça faisait beaucoup.
Assurance chômage. Votre avis sur l'assurance chômage. Marie Bizot, vous voulez commencer sur l'assurance chômage. Bon, celle-là, elle est engagée. Jusqu'ici, les syndicats n'ont pas totalement fermé la porte. Maintenant, il va falloir voir...
Ça ne va pas être simple non plus.
Voir les détails de ce qui va être utilisé. Moi, je pense qu'il y en a un seul paramètre qui fonctionne. Mais allez-y, qu'en pensez-vous ?
Non, mais donc l'idée, pour le rappeler, même si les téléspectateurs qui vous suivent connaissent ça par cœur, mais c'est donc moduler en fonction de la conjoncture, pour schématiser très rapidement. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, le diable est dans les détails. Quels paramètres ? C'est la question qui se pose. Bon... le ministère du Travail a déjà donné quelques indications. Donc le concept, c'est qu'on est plus strict quand il y a une embellie conjoncturelle, et on est plus souple quand ça va mal. On pourrait jouer sur la durée d'indemnisation.
C'est principalement ça qui pourrait être efficace.
Voilà. On parle quand même aussi des conditions pour être éligible aux indemnités.
Alors, été durcies dans la réforme 1.
Ça va se discuter. Bon, quand même, tous les syndicats n'en veulent pas. Enfin, les syndicats n'en
veulent pas. Ah non, j'ai pas dit qu'ils en voulaient, mais la porte au dialogue est à la concertation.
Alors,
c'est un peu ouverte.
C'est à la consultation.
Oui, c'est ça.
Consultation. Voilà. Parce que... on va voir ce qui va en sortir. La différence, c'est que. C'est vraiment l'État qui va avoir la main sur la décision finale. Donc voilà.
Le MEDEF
l'a dit aux universités,
universités d'été.
Universités d'été à la REF fin août. Il dit de toute façon, il faut que l'État décide puisqu'on se mettra jamais d'accord.
Donc, c'est ce qui va se passer.
C'est ce qui va se passer.
Il y a un décret qui va rendre.
C'est ce qui va se passer.
La main à l'État intégralement sur l'ensemble des choix. C'est l'aboutissement de la nationalisation du système. Vous évoquiez, Mathieu, le déficit structurel du système de retraite, le déficit de l'UNEDIC, il a doublé. On était dans les 30-35 milliards, on est à 60 aujourd'hui.
Ça, c'est la dette.
C'est la dette. Oui, c'est la dette. Exact. Mais il y a un moment, là aussi, on se dit que ce ne sera jamais le bon moment, mais il faut peut-être...
Alors après,
est-ce qu'on peut continuer à indemniser 24 mois?
Alors, il y a la question, effectivement, du lien cyclique qu'on pourrait avoir avec l'indemnisation. Qui pose la question de quel est le chômage d'équilibre, en gros, dans lequel... apparemment, on fait des excédents en dessous de 8% aujourd'hui de chômage, et on fait des déficits quand on est au-dessus. Alors, quand vous regardez la période, on a été plus souvent au-dessus de 8% qu'en dessous de 8%. La question, à mon avis, qui est fondamentale, on comprend l'idée d'être plus incitatif, d'être moins généreux sur l'indemnisation chômage quand il y a beaucoup d'offres d'emploi et qu'il y a des pénuries, en fait, dans les recrutements. Donc c'est une forme d'incitation au retour à l'emploi plus rapide. Et inversement, quand ça va mal, les gens choisissent pas d'être au chômage, donc ils se retrouvent dans une situation difficile et donc vous avez des amortisseurs sociaux qui sont plus généreux. La logique est assez intéressante, je trouve, mais effectivement, c'est la mise en pratique de tout ça.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, les pays qui l'ont fait, ils l'ont fait par région. Alors, parce que voilà, vous avez des bassins d'emploi où c'est pas catastrophique.
Exactement.
Et ils ont abdiqué sur l'idée
que... Mais c'est impossible de le faire autrement. C'est ça le problème. Oui, c'est comment vous arrivez à avoir une
unité. Olivier Dussopt a dit que ce ne sera pas par région.
Et oui, et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en Lorraine, en Île-de-France, en Auvergne ou en PACA? Quand vous voyez, vous avez des chocs qui sont économiques, qui sont extrêmement différents, ou des effets structurels, des industrialisations qui peuvent être pareil, très différents. La situation d'un cadre n'a rien à voir avec celle d'un ouvrier. Donc, moi, je pense que la logique, la philosophie, la théorie n'est pas si mauvaise. Enfin, en tout cas, je ne serais pas opposé à ça. Je pense que c'est la question opérationnelle qui pose vraiment problème là-dessus. Et qui sera compliqué à mettre en avant, si ce n'est de faire une espèce de micro-management de chacune des situations, de voir qu'en fonction de votre type de travail, de votre situation géographique, vous avez tel taux de chômage et donc vous auriez droit à l'indemnisation. Mais alors à ce moment-là, on rentre dans une usine à gaz.
C'est une usine à gaz, mais c'est ce qui serait le plus juste.
Mais ce qui serait le plus juste, voilà, si on veut mettre de la justice.
Le fameux
là-dedans.
Modèle canadien, alors qui n'est pas complètement idéal, hein, mais voilà, ils ont fait ce travail-là et finalement qui arrive à plus de justice.
Voilà, c'est compliqué, mais c'est pas forcément infaisable. Voilà. Parce que quand on écoute Stéphane Carcio, qui vient le 29 septembre, je crois, ici, il explique que quand on regarde les différentes durées d'indemnisation, et il insiste sur la durée d'indemnisation, comme Bruno Coquet d'ailleurs de l'OFCE, qui considère que c'est un paramètre qui fonctionne. Il dit, ben, si vous indemnisez 6 mois, vous vous rendez compte qu'au bout de 4 mois, les gens commencent à bouger. Si vous indemnisez 12 mois, les gens commencent à bouger au bout de 6-8 mois. Si vous indemnisez 24 mois, ben, les gens commencent à bouger au bout de 13-14 mois.
Ça a été fait pour les cadres, hein, je rappelle quand même. Hein.
Enfin, on a fait de la dégressivité.
Oui, mais ça revient à la même chose. C'est-à-dire qu'on considère que le chômage des cadres est structurellement bas. Et que donc, du coup, il est normal qu'il y ait une indemnisation qui soit moins généreuse, parce que ça voudrait dire qu'il y a implicitement une forme de choix du cadre à rester au chômage.
Vous êtes chef d'entreprise, Rafik Smati. Derrière, si on utilise des mots qui sont plus des mots d'économiste et des mots techniques, stop à un système qui incite à ne pas bosser. Parce que c'est un peu ça l'idée quand même qui est derrière. On a un système en tant que montant d'indemnisation, que durée d'indemnisation, qui est une désincitation au retour à l'emploi. Et en fait, on veut faire sans le dire ce qu'ont fait les Anglais en le disant à l'époque. Rendons le système d'assurance chômage le plus douloureux possible, disaient les Anglais à l'époque. Comme ça, au moins, on est sûr que les gens n'auront pas envie d'y rester. Alors là, je deviens très vulgaire dans ma façon de parler, mais il y a quand même de ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un fond de vérité? Alors que c'est vrai, ces phénomènes qui peuvent exister, dont on pourra trouver des exemples, sont très difficilement quantifiables.
Vous n'avez pas idée comme il est difficile aujourd'hui pour une entreprise en France de recruter.
Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi on a à ce point-là des pénuries.
C'est extrêmement difficile. Ça fait 23 ans que je suis entrepreneur, je n'ai jamais connu ça. Et il y a un autre phénomène qui est nouveau, ça date de quelques années. Et ce n'est pas, je crois, une caricature. Ce sont ces salariés qui viennent vous voir, qui vous demandent une rupture conventionnelle parce qu'ils ont un autre projet de vie. Alors, une année sabbatique, un tour du monde, etc. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ne veulent pas tout donner à leur travail, qui suivent d'autres idéaux, etc. Je le respecte. Sauf que ce n'est pas à la solidarité nationale de le prendre en charge.
C'est un peu ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Hein.
Ce n'est pas à la solidarité nationale de le prendre en charge. Je ne les juge pas, je ne les stigmatise pas, mais je considère que la solidarité nationale, elle est là pour protéger ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont fragiles.
Face à des risques et des accidents, oui.
Et donc la réforme chômage, qui consiste à dire qu'en période de prospérité, où vous avez un marché du travail qui est tendu, eh bien, les conditions de cette assurance chômage sont resserrées, alors que inversement, lorsque vous êtes dans une période de chômage de masse, eh bien, les allocations chômage sont plus facilitées. Je trouve que c'est du bon sens. Mais cette réforme-là n'aura un sens que si elle est régionale. Parce que, évidemment, la situation à Paris-Centre et en Lorraine et en Lozère, elle n'est évidemment pas la même. Donc, philosophiquement, évidemment qu'il faut aller dans ce sens-là, parce qu'il faut, produire. Et ceux qui décident de mener un autre chemin de vie, ce n'est pas la solidarité nationale de le prendre en charge. Mais il faut que cette réforme soit régionale, parce que les considérations en France ne sont hélas pas les mêmes.
Bon, mais pour l'instant, en régional, il n'en est pas question. Je vais rester avec vous. Vous allez commencer sur le sujet suivant, parce que vous avez toujours été en queue de peloton. C'est toujours plus compliqué de terminer sur un sujet. J'ai été un peu provocateur la semaine dernière en disant que finalement, ces boucliers tarifaires, ça devenait une quasi sixième branche de sécurité sociale où on avait transformé le pouvoir d'achat en acquis social et que finalement, le gouvernement est piégé. On réalise que tous les économistes disent il faut cibler, il faut resserrer, il faut cibler. Ben, finalement, on resserre très très peu quand même en début 2023 et on ne ciblera pas. Comment vous regardez ce bouclier tarifaire? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est devenu un piège politique et qui en plus a un côté anti-pédagogie dans l'état d'esprit des gens qui finissent par considérer que même si l'argent n'est plus magique, même si l'argent n'est plus gratuit, de toute façon il est toujours là, il change de nom, on change de nom les dispositifs, mais voilà, on a installé cette idée et que finalement quand on va vraiment devoir revenir à une vie normale, on ne saura plus faire. Un peu comme un banquier central a du mal aujourd'hui à revenir à une vie normale.
Là, nous sommes dans la tempête depuis quelques années avec le Covid.
Légèrement.
Et effectivement, ce que vous appelez la sixième branche de sécurité sociale.
C'est fantoche dans mon esprit, ça n'existe pas, mais c'est voilà.
L'idée qui consiste à dire que le pouvoir d'achat devient aujourd'hui un acquis social dans notre pays, alors que le pouvoir d'achat, c'est supposé être la conséquence d'une politique économique. Et aujourd'hui, il y a un renversement qui est à l'œuvre, qui est assez surprenant. Le pouvoir d'achat, c'est le prérequis. C'est-à-dire c'est le point de départ de ce que doivent être toutes les politiques économiques. Alors, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est que lorsqu'on va sortir de crise, et on finira bien par sortir de crise, est-ce que cette politique de bouclier tarifaire fera que nous serions parmi les premiers à repartir et que finalement pourra s'ouvrir une période de prospérité parce que nous aurons fait ces choix-là?
Certains le pensent.
On va repartir
plus vite et mieux que les autres. Car on a freiné l'inflation en dessous des 6.
Ce qui est possible, parce que si les entreprises sont moins fragilisées, si le pouvoir d'achat est maintenu, peut-être que les choses peuvent repartir. Parce que, en toile de fond, faut pas perdre ça de vue, je considère que pour plein de raisons, vous savez, la théorie des nouvelles 30 glorieuses, malgré tout ce qui nous arrive et malgré tout ce qui va nous tomber sur la tête, je considère que nous sommes à l'aube d'un nouvel âge d'or. Parce que nous avons une révolution technologique, une révolution numérique, vous avez tellement de choses qui vont changer dans les années qui viennent que les perspectives de prospérité sont énormes. C'est pas comme si on était dans une crise avec une impasse en face de nous. Non, il n'y a pas d'impasse. Il y a un nouveau monde à réinventer, avec des enjeux écologiques qui sont majeurs, etc. Donc, face à ça, ceux qui sortiront plus tôt de cette crise sont probablement ceux qui rafleront la mise.
Alors, dans ces cas-là, bravo, quoi qu'il en coûte.
Et donc, mais ça, nous le verrons dans 5 à 10 ans. Peut-être que dans 5 à 10 ans, quand nous regarderons dans le rétroviseur, nous nous dirons, tiens, nous nous sommes mis des boulets aux pieds, et à cause de ça, on ne peut pas...
Il faudra débrancher. Mais... Débrancher comment on fera? Mais il est certain que dans un premier temps, l'amortisseur des mesures mises en place a été plus efficace chez nous.
Si on considère, en résumé, que nous allons vers un nouvel âge d'or, ce que je pense intimement, faire en sorte que tout soit maintenu pour pouvoir rafler la mise, c'est probablement une bonne idée.
Votre avis, Marie Vizeau, Mathieu Plane, par rapport à ce que dit Rafik Smati, beaucoup considèrent que finalement on fait un choix qui est cher, qui pèse lourd dans les comptes publics, mais qui est peut-être le choix le plus habile qui a été fait en Europe.
Alors, Rafik, il a dit beaucoup de choses. Alors, juste un chiffre pour commencer. En 2023, ce bouclier tarifaire, c'est 26 milliards supplémentaires.
Mm-hmm. C'est un point de PIB.
Comme ça, 26 milliards supplémentaires.
En net, 15, mais en brut,
26. Alors en net, 15, on ne va pas rentrer dans les détails, mais... Il y a quelques années, avant qu'on parle de crise Covid et de guerre en Ukraine, il y a des ministères, des solidarités, que je cite vraiment au hasard, qui se battaient pour avoir 100 millions pour mener une politique sociale. Enfin, on est dans des proportions qui sont démesurées. C'est démesuré.
Pour un milliard, t'as plus rien.
Ça a mieux fonctionné que dans les autres pays. Ça a aussi coûté plus cher. Finalement, c'est
les deux vont ensemble, Marie.
Voilà. Et donc cet âge d'or dans lequel on rentre, dont parlera.
J'ai envie d'y croire à son âge d'or.
Oui. Alors, on va quand même passer par une phase de destruction créatrice parce qu'on a un nouveau monde à inventer qu'il va falloir sacrément gérer.
Ça va être chaud.
C'est quand même pas un
autre. On n'a plus de problème sur la retraite, l'âge d'or.
Voilà, on va le mettre entre guillemets, l'âge d'or. C'est-à-dire que là.
3000 ETI et un chômage à 5%,
on est bien. Ça fait beaucoup d'emplois, voilà, beaucoup de recettes fiscales, il n'y a plus de problème.
Aujourd'hui, on finance l'essence. J'en discutais avec Jean-Marc Daniel, que vous recevez souvent ici. Il dit on creuse le déficit commercial, on bousille la planète et on laisse de la dette à nos enfants. Super! Voilà, donc il y a un moment où il faudra quand même remettre les choses à leur place, même si on est dans une période où on en a besoin, où on a fait mieux que les autres. À un moment, il faut débrancher. C'est comme une niche fiscale, on ne sait pas le faire. Une niche fiscale, à l'origine, c'est créé pour un moment donné, pour une politique budgétaire donnée, et on est censé débrancher une niche fiscale. On ne débranche jamais une niche fiscale.
C'est comme la CRDS qui finance
la
CADES.
Par exemple, et on n'a jamais eu autant de niches fiscales qu'aujourd'hui dans notre pays. On est quand même dans une situation pas très simple, mais croyons en l'âge d'or de Rafik.
Votre avis, Mathieu Plane, on en fait trop, ou au contraire, on a bien dosé l'histoire, même si effectivement l'exit sera compliqué. Alors sur le carburant, elle est programmée, la sortie.
C'est fini, ouais.
En théorie, le 1er janvier, il n'y a plus un centime de ristourne.
Discutable sur la remise des 30 centimes.
centimes à la rentrée quand le prix du baril baissait.
Ah ben moi j'ai eu le. Enfin, c'est
très clair. N'importe quoi.
C'était
pas du tout lié au prix de la matière
première. Non, il fallait le vote des LR à l'été. On voit bien qu'on leur a donné ça pour avoir un baril.
Il y a un argument qui est de dire effectivement la mesure n'était pas très intelligente. À partir du moment où elle est décorrélée du prix de la matière première.
Totalement. C'était juste.
Mais regardons ce qui va se passer sur les prix du gaz aussi.
Mais alors, sur les prix. Alors, après, je serais un peu plus indulgent pour le reste, parce qu'on est face à un choc qui est quand même assez monstrueux et terrible, hein, avec la guerre en Ukraine et les conséquences sur le prix de l'énergie. Donc, c'est vrai que ces boucliers, initialement, ils étaient là pour être temporaires. Temporaire parce qu'on était face à des mesures d'urgence. Comme le Covid, vous débloquez des fonds massifs parce que vous êtes capable de le faire en disant ça a duré un an, deux ans, mais après ça s'arrête. C'est pas une mesure structurelle. C'est pas une mesure de baisse d'impôts que vous allez payer ou d'augmentation du nombre de fonctionnaires que vous allez rémunérer chaque année.
Tout commençait en 2020, on a changé les gens et ça continue.
Vous pouvez faire beaucoup tant que c'est de l'urgence. Le problème, c'est quand la situation s'installe et qu'elle devient durable. Et vous pouvez plus gérer de l'urgence sur une situation durable. Et si vous considérez qu'effectivement, entre le fait que les prix de l'énergie ne vont pas retomber, en tout cas, le pétrole c'est un peu différent, mais le gaz probablement restera durablement avec des prix du gaz élevés. La question de la transition énergétique, et effectivement, les énergies fossiles plus carbonées, on va les payer plus cher, se pose la question de quelles sont les bonnes mesures qui doivent être adaptées. Donc c'est vrai que là, pour le moment, le bouclier tarifaire, il gère la fin du mois, il ne gère pas la fin du monde. Hein.
Ah, totalement.
Donc il y a quand même cette question de réconciliation qu'il va y avoir, parce que c'est vrai que ça coûte cher. En même temps, le supprimer, c'est un choc inflationniste des 3 points qu'on n'a pas eu. Hein. On fait 3 points de moins, c'est l'INSEE qui le dit, grâce au bouclier tarifaire, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est vrai que l'arbitrage est complexe, c'est-à-dire que du coup, si vous l'arrêtez, vous avez le choc inflationniste qu'on n'a pas eu, et donc un effet qui sera beaucoup plus négatif sur 2023. L'avantage qu'a ce bouclier tarifaire, si on doit faire des arguments plus économiques, même s'il n'est pas ciblé, c'est qu'il y a des arguments de compétitivité.
Exact.
C'est-à-dire que quand vous faites 3, 4 points de moins que l'Allemagne, c'est peut-être mieux qu'un CICE. C'est-à-dire qu'en termes de prix relatif, de coût, compétitivité, on n'a jamais gagné autant de parts marché que maintenant.
Donc, ça évite à des rafics smatiques de vous devoir augmenter les salaires.
Voilà, vous évitez des effets de second tour. C'est-à-dire quand vous avez 5 ou 6% d'inflation, c'est plus gérable en termes d'augmentation de salaire que quand vous en avez 10 ou 12.
Ah, ça, c'est clair.
Ou pareil sur les loyers, etc. Donc, ou les prestations sociales. Donc, vous imaginez les effets. Donc, c'est vrai que le SMIC, donc tout ça est assez intéressant, mais ça pose quand même, après, bien sûr, la sortie de tous ces dispositifs. Et n'oublions pas que nos petits amis allemands ou anglais sont en train de mettre des gros paquets maintenant. Hein, on parle de plus de 100 milliards de livres au Royaume-Uni et 65 milliards, je crois, en Allemagne. Donc ils le font avec retard. Ils ont fait des choses, mais ils sont en train de gonfler le paquet. Hein.
Et puis simplement, là où je rejoins Marie Vizeau, c'est qu'en réalité, il y a deux dépenses publiques. Il y a la bonne dépense publique et la mauvaise dépense publique. Ce à quoi vous faisiez référence tout à l'heure, c'est évidemment la mauvaise dépense publique, parce qu'une partie de l'argent public aujourd'hui est mal dépensée. Bon, je vais vous faire l'impasse sur les 1800 agences qui dépendent de l'État, avec les gabegies autour de la sécurité sociale, etc. Donc il y a un système aujourd'hui qui mérite évidemment d'être réformé. L'assurance chômage, c'est bien. La réforme des retraites, c'est bien. Et il faut aller dans le dur, s'agissant de la réforme de l'appareil d'État, supprimer les couches administratives, etc. Mais ça, c'est l'arlésienne, mais c'est évidemment nécessaire. Et à côté de ça, vous avez la bonne dépense, c'est-à-dire celle qui va nous permettre d'entrevoir l'avenir.
Mais on peut voir ce bouclier comme une bonne dépense.
S'argumente. Et je pense que ce bouclier est une bonne dépense, à condition qu'il y ait une vision. C'est-à-dire que si on considère ce bouclier comme étant quelque chose qui est là pour gérer une situation présente sans visibilité à long terme, on va aller dans le mur. Vous savez, moi, je crois aux vertus des crises. Les crises, vous avez deux manières d'appréhender
les
crises.
Crise nous rend plus fort.
Soit vous considérez que la crise, c'est un moment difficile et que vous allez subir, en gros, soit vous êtes en mode loser, pardonnez-moi l'anglicisme, soit vous dites que cette crise est un moment unique pour changer d'état, pour essayer de construire quelque chose d'autre. Et si on a cette vision de ce que va être 2035-2050, je crois qu'on peut vraiment s'éclater. Enfin, et en France, on a des atouts monumentaux pour pouvoir embrasser cette nouvelle révolution industrielle. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et ne pas perdre de vue que peut-être que le meilleur est à venir et peut-être que nos petits-enfants auront leur revanche.
Mais oui, Mathieu Plane, allez-y.
Non, moi, ce que je pense aussi là-dessus, hein, c'est que la question du bouclier tarifaire, elle est quand même assez intéressante parce que c'est quand même beaucoup d'argent qui est mis sur la table. On parle de 26, 14, bon bref, c'est beaucoup d'argent. Moi, je pense que ce qui manque aussi, hein, juste pour faire des trucs peut-être plus terre-à-terre, c'est qu'il n'y ait pas eu de lien entre le bouclier tarifaire et la sobriété. On dit il va faire la sobriété. il aurait fallu créer des incitations, c'est-à-dire, pourquoi pas, on dit qu'il faut baisser de 15% notre consommation d'énergie. En gros, c'est ça, pour passer l'hiver. Pourquoi on n'aurait pas eu 85% de notre facture d'énergie à prix bloqué, tarifé, et le reste au prix du marché ? Pourquoi pas créer aussi des incitations, enfin, ou un système comme ça, qui fait qu'on lie aussi des incitations dans notre consommation et la sobriété à l'aide de l'État ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
C'est pollueur-payeur que vous... Que oui.
Bah non, c'est pas pollueur-payeur. Non, oui, non, mais... c'est de dire, en fait, on a un objectif qui est quand même, de toute façon, si on veut passer l'hiver, il faut réduire notre consommation d'énergie, et notamment de gaz. Est-ce que comment le bouclier tarifaire pourrait être calibré pour aussi créer des incitations ?
Mais là, ça devenait complexe.
Mais complexe, oui, mais toute la vie du monde est complexe.
Tout est toujours complexe.
Le monde complexe.
Alors, regardez, c'est bien pour ça qu'on a, on a oublié l'idée d'avoir des trucs ciblés, carburant, ciblés, alimentation, parce que c'est...
Non, mais je suis d'accord. Après, il y a les effets de seuil. C'est-à-dire que si on avait fait autre chose, parce que certains disaient, ben, il faut un tarif progressif, etc. Le problème, c'est les effets de seuil. C'est-à-dire que du coup, vous allez cibler sur effectivement les plus modestes. Après, ceux qui sont juste au-dessus, c'est le bas de la classe moyenne, va se retrouver à encaisser un choc assez terrible. Donc du coup, on ne ciblait pas. Mais je pense que sur le bouclier, on aurait pu, et je pense que c'est un peu ce qui manque aujourd'hui chez Emmanuel Macron, son en même temps habituel, qui était de dire, ok, je fais quelque chose, mais il y a quelque chose de l'autre côté. Pour moi, on est sur le bouclier, mais je n'ai pas vu trop la stratégie de sobriété. Hein.
Il y a un plan anti-gaspille qui doit arriver mi-octobre.
Bah oui, mais...
On verra ce qu'il y a dedans, on verra s'il y a un lien avec le bouclier tarifaire pourrait avoir le jour, c'est pas du tout certain.
Et un peu de politique de l'offre aussi, finalement.
Ah, mais alors là... Ouais.
Sur la transition.
Oui, sur la transition.
Bon, il a parlé du nucléaire, mais c'est vrai que ça va arriver dans 10 ans, quoi.
Il est certain que là, aujourd'hui, on fait une politique de la demande, on subventionne la demande, et avec tous les boucliers et toutes les subventions qu'on accorde, ben, on enrichit les Saoudiens et le reste du monde. Ouais. Il n'y a aucun problème, aucun doute là-dessus.
On va prendre 50 milliards en plus, hein, de factures sur les hydrocarbures, là.
50 milliards
annuel, sur... on est à 50 de déficit, on va doubler quoi.
Ah oui, non, c'est sûr. On a 5 minutes, un petit mot de politique monétaire, tiens, avec vous Mathieu Plane, parce que là on est à l'aube d'une décision de la Fed, et alors c'est un peu difficile, c'est devenu un sujet qui est un peu difficile à arbitrer, pour savoir si les hausses de taux, il faut s'arrêter ou continuer, stop ou encore, parce que moi j'ai regardé, vous avez... des économistes tout à fait compétents, chef économiste d'UniCredit qui dit attention, grave erreur politique en perspective. Bon, je passe Jacques Attali dans Les Échos qui parlait d'erreur historique de la BCE si elle continue à monter ses taux. Jacques Attali est quand même pas un analyste financier. Mais par exemple, l'ex-chef économiste du FMI, les banques centrales vont collectivement trop loin, elles vont entraîner l'économie mondiale dans une contraction inutilement brutale. Et puis en face, Paul Krugman qui dit, ben non, il faut absolument continuer parce que les anticipations d'inflation, c'est la clé. Il faut pas qu'elles soient ancrées à des niveaux stratosphériques. Et Isabelle Schnabel pour la BCE qui nous dit, ben il vaut mieux en faire trop que pas assez. Donc on continue. Vous avez quand même deux camps avec des visions radicalement opposées de gens compétents qui ont tous les données du problème. Et ben, je vais finir par plus savoir ce qui est la bonne décision. Je ne sais pas si vous arrivez.
Je crois que personne n'a la bonne décision. En fait, ça révèle toujours ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des objectifs contradictoires qui ne seront pas réconciliables. Et donc, c'est quelle est la priorité de vos objectifs ? Si on prend le cas de la BCE, il est assez évident que le risque de hausse des taux, c'est de casser la croissance dans une période de fragilité et donc d'entraîner une accélération de la récession.
Clairement.
D'augmenter le coût des dettes en sortie de crise. On voit bien d'être privé, d'être public, et donc la charge d'intérêt forcément va augmenter, donc réduire les marges de manœuvre budgétaires au moment où on en aura besoin. Mais en même temps, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire que si on fait rien, c'est le risque aussi d'ancrage des anticipations et donc de devoir faire beaucoup plus après. Donc de trouver le bon timing, c'est compliqué. Et dernier point, il y a aussi la question de la monnaie. C'est-à-dire qu'on voit l'euro se déprécie par rapport au dollar, notamment parce que la Fed a augmenté ses taux.
Donc, les rendements obligataires aujourd'hui sont là.
Je pense que Christine Lagarde va être critiquée.
Quoi qu'elle fasse.
De toute façon, quoi qu'elle fasse. Et puis, en plus, à la zone euro se rajoute un autre problème. La hausse des taux trop rapide risque de remettre sur la table le risque de fragmentation de la zone euro.
C'est déjà... On est à 4% chez les Italiens.
4% en Italie, 1,7% pour l'Allemagne. C'est énorme.
Ah ouais, c'est énorme, là.
C'est énorme. Donc, du coup, effectivement, ne rien faire sera une énorme critique pour la BCE qui a un mandat sur l'inflation. Effectivement, face à un choc d'offres négatif, notamment sur l'énergie, clairement, le sous-jacent n'est pas si haut que ça, on n'est pas aux États-Unis, donc c'est vrai que ça peut être assez critiquable, cette hausse des taux, parce qu'elle risque de ne pas régler l'inflation. Je pense qu'elle est faite uniquement pour gérer potentiellement la question de l'euro, mais surtout pour les ancrages d'anticipation, c'est-à-dire faire en sorte que son mandat soit crédible. Mais
crédible.
Elle met en risque, effectivement, la croissance et le retour d'une fragmentation de la zone euro.
Je voyais un consensus de marché que je trouvais assez raisonnable. Les marchés, enfin, les observateurs de marché avaient l'air de dire, écoutez, si la Fed s'arrête aux alentours de 4, ça ira. Si la BCE s'arrête aux alentours de 2, 2,5, ça ira.
Oui, oui.
Voilà.
C'est un peu dans les scénarios aujourd'hui.
Voilà, c'est un peu ce que disait même Jacques Attali, s'il n'est pas analyste financier.
Si elle compte... Il ne faut pas oublier qu'au début des années 80, la Fed a remonté ses taux jusqu'à 20%.
Ah oui, mais justement, personne ne veut imaginer que le scénario va le faire.
Et qui avait créé une récession importante, avec, et notamment une crise dans l'Amérique latine.
Avec des niveaux de dette publique et privée nettement plus bas.
Nettement là, plus bas. Donc ça, il faut le gérer ce risque.
On a 2 minutes pour conclure. Je vais vous faire réagir, Rafik Smati, à cette volonté officiellement affichée de 5 grandes économies de la zone euro, France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, d'avancer vraiment sur le projet de euro numérique. Et je sais que le sujet vous intéresse comme moi. Ça vous inspire quoi? Moi, la question, c'est toujours pourquoi faire cette monnaie? Mais je ne sais pas comment vous voulez le regarder.
Vous savez, l'euro numérique, c'est quelque chose qui occupe pas beaucoup de place dans la presse. Il fallait lire
très peu.
Et pourtant, ça serait une erreur de l'aborder sous un angle que financier, que économique, et encore moins technologique. Je crois que c'est un vrai sujet civilisationnel. Vraiment, et je pèse les mots. N'oublions pas que la monnaie, c'est notre bien commun. C'est quelque chose que l'on partage. Et le rapport à la monnaie est en train d'être changé. Alors, vous avez les crypto-actifs qui sont là. Et à cet égard, je trouve très bien...
Vous les avez appelés crypto-actifs et pas crypto-monnaie, d'ailleurs.
Et je trouve très bien, d'ailleurs, que les banques centrales, que la Banque Centrale Européenne, pour le coup, essaye d'avoir un coup d'avance en se disant, tiens, il va se passer quelque chose, je ne peux pas être complètement à l'extérieur de ça. Donc ça, c'est un premier bon point. Deuxième point, et là où je trouve l'exercice intellectuellement très stimulant, c'est qu'on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça peut terminer. C'est-à-dire que la monnaie numérique, c'est quoi? C'est potentiellement, je dis bien potentiellement, même si ce n'est pas acté aujourd'hui, la fin du cash. Et donc,
c'est quand même ça, l'idée,
avec la fin du cash, avec la fin du cash, c'est donc potentiellement la possibilité, en période de crise, de taxer les dépôts. Mais aussi de faire de l'hélicoptère monnaie. Parce que chaque citoyen sera en interface directe avec la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, le lien que le citoyen a avec sa Banque Centrale, c'est un billet. Eh bien, demain, le lien avec la Banque Centrale sera numérique. Et donc, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça termine. Et quel est l'avenir des banques et du secteur financier devant ça? Alors ça, c'est une énigme. Et je serai aujourd'hui grand patron de banque. Je serai extrêmement inquiet.
Vous avez extraordinairement bien résumé les enjeux. Alors, apporter des réponses, on reviendra sur le sujet une autre fois. Mais effectivement, je crois que les principaux enjeux qui sont derrière, et vous avez partiellement répondu à des éléments de la question que je pose, pourquoi le faire pour des choses qu'on ne veut pas vraiment dire et pas vraiment admettre aujourd'hui, en fait. On a fini. Merci Marie Bizot d'avoir été là, Mathieu Plane et Rafik Smati. Rendez-vous demain à 9h.